Merci d'être là donc pour la petite présentation que je vais vous faire autour de quelque chose qu'on a appelé Matisse Gratte, qui paraît effectivement un terme ou un titre un peu provocateur, mais quand Matisse Gratte, il est aussi dans la provocation de la peinture au début du XXe siècle. C'est une présentation que j'aurais eu le plaisir de faire avec une de mes amies qui s'appelle Elisabeth Lebovici, qui est professeure à l'EHESS, entre autres. Mais hélas, Elisabeth ne peut pas être là aujourd'hui, elle a eu un empêchement de dernière minute, donc j'ai la lourde tâche de vous présenter cette chose. C'est un travail qu'on avait fait avec Elisabeth, en fait, qu'on a repris à cause du titre même de la conférence, du festival cette année à Fontainebleau, sur la matière, mais c'est en fait quelque chose qui est assez ancien dans notre travail, puisque c'est un article qu'on a écrit en 1993, qui avait été publié dans les cahiers du Musée d'Art Moderne du Centre Georges Pompidou. Et c'est un article qu'on avait appelé « Lithophanie de Matisse ». Lithophanie est un terme assez savant, on pourra y revenir dessus plus tard. Et ce qui nous intéressait effectivement là, c'était la matière telle que Matisse l'employait, et particulièrement les effets de matière, que ce soit des lignes, des masses, et dans ces effets de matière, plus particulièrement quelque chose que Matisse fait dans ces années-là, qui est tout à fait surprenant, qui est qu'il enlève une couche picturale. Qu'il travaille par retrait de la couche picturale, qui est un procédé très curieux quand on pense par rapport à la peinture, puisque la peinture, au contraire, c'est d'ajouter des couches picturales, les unes par-dessus les autres, et pas de la retirer. Il ajoute, au fond, de la matérialité à la toile en retirant de la matière. Et on est là face à une espèce de paradoxe qui nous avait intéressés. Cet effet qui est visible à l'œil nu, qu'on peut voir dans de très nombreuses toiles de Matisse, nécessite néanmoins un contact direct avec les œuvres. Et d'une part, et d'autre part aussi, cette étude nécessitait de voir ou de comprendre que Matisse employait ça à plusieurs reprises. Et on faisait presque un système à un certain moment. C'est-à-dire que ça devenait un trait de sa peinture, si je peux m'exprimer ainsi. C'est grâce à une exposition, celle qui avait été organisée à Beaubourg par Dominique Fourcade et Isabelle Monod-Fontaine en 1993, qui faisait elle-même suite à l'exposition de New York au Musée d'Art Moderne dans les mêmes années, que l'on a pu vérifier ceci. En tout cas, c'est lors de cette exposition qu'on s'est aperçu tout d'un coup de cette pratique très étrange chez ce peintre. Je vous ai mis les deux couvertures du catalogue. C'est une exposition importante. Et ça pose aussi une remarque à propos des expositions, c'est-à-dire qu'on fait toujours des critiques sur les expositions avant que l'exposition ouvre, et on le fait de plus en plus d'ailleurs, c'est ce que je regrette beaucoup dans la presse contemporaine, les gens écrivent avant même que l'exposition soit ouverte et que l'on ne revient jamais sur les expositions après l'exposition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, à mon avis, de vraies critiques de l'exposition, et que il n'y a pas de leçon tirée des expositions. Et ce qu'on avait voulu faire dans cet article, c'est de montrer aussi que l'on pouvait tirer des leçons d'une exposition et que ça ouvrait à des problématiques à chaque fois. Donc, crayon en main, nous sommes partis dans cette exposition à Beaubourg et nous y avons passé, nous sommes allés au moins plusieurs fois et on a listé les grattages et à notre grande surprise, on les a trouvés dans très nombreuses toiles. Deuxième remarque aussi, tout le monde pouvait les voir, ces grattages. Le problème, c'est qu'un grattage, ça ne se voit pas à la photographie. Ça ne passe pas à la photographie. Et que pour le voir, effectivement, cette pratique, il faut être devant la toile. Et là, il y a là aussi toute une question à la façon dont on constitue l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'il y a indiscutablement, parce que nous travaillons à travers des choses qui sont des reproductions, souvent, il y a des tas de choses que nous ne voyons pas. Et indiscutablement, l'histoire de l'art a été en partie faussée par le fait qu'elle est travaillée à partir de reproductions. Alors ça change un peu ces dernières années, les nouvelles technologies font que de plus en plus, et dans les musées on le voit souvent, les gens prennent des détails d'étoiles ou des choses qu'ils remarquent et que l'on peut à nouveau montrer. Alors, quand on a écrit cet article, quand on a vu cet article, il y avait très peu de choses décrites sur le sujet. On a regardé si quelqu'un avait parlé du grattage, Matisse gratte, est-ce que quelqu'un en avait parlé et tout. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de choses sur le sujet. Et qu'au fond, très peu de choses aussi dans les années 90, très peu de textes abordaient le sujet de la matière. On signalera cependant deux ouvrages qui nous paraissent importants. D'une part, l'ouvrage dont je vous mets la reproduction de Jean-Claude Bonne, et de Éric Aliès qui s'appelle « La pensée Matisse », par portrait de l'artiste en hyper fauve aux éditions du Passage. Vous savez que Bonne interprète la peinture de Matisse d'une façon tout à fait nouvelle vis-à-vis de la pensée vitaliste de Bergson, mais surtout où il va passer du principe de l'étude des formes, qui est celle de l'histoire de l'art classique, ou, comme il le dit, d'un art où c'est la différence de quantité de la couleur qui fait sa qualité. Hein, c'est-à-dire une étude vraiment sur la matière. Et puis le deuxième livre aussi que l'on peut citer, plus récent, est l'exposition de John Elderfield et Stéphanie D'Alessandro, Matisse Radical Invention, 1913-1917, qui a eu lieu en 2010 à Chicago, puis ensuite à New York, qui est une étude très détaillée du travail de Matisse, et particulièrement l'élaboration des toiles de Matisse. C'est un très très bon travail, évidemment, d'historien d'art, très utile pour nous parce qu'il est très précis, il est très historique, et qu'il utilise aussi de façon tout à fait intéressante des archives qui n'étaient pas disponibles dans les années 90, comme nous avons travaillé. Alors, c'est vrai aussi que quand on a fait cet article, on était très marqué par toute une approche post-structuraliste. On était un peu dans la voie de deux revues qui s'appellent Macula et October, notamment et plus particulièrement des écrits de Jean-Claude Liebenstein qui avait été d'Yves Alain Bois sur Matisse, et toute notre opération a consisté donc à isoler une unité signifiante qui est le grattage, un élément grattage qui soit aussi un élément matériel de la peinture, qui se présentait en de nombreuses occurrences dans les tableaux de Matisse. Nous voulions regarder comment nous pouvions interpréter cette unité signifiante, comment elle prenait sens suivant ses modes de représentation. Et aussi, nous voulions travailler ou commencer à travailler sur la matière de la peinture, que donc peu de gens avaient abordée. Sur l'histoire matérielle donc des œuvres. Alors, avant de se lancer là-dedans, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que gratter. C'est une pratique ancienne. Vous savez que le mot italien, graffito, en italien, gratter, scratch en anglais, renvoie à une technique relativement courante utilisée en peinture, en poterie et sur le verre. Qui consiste à poser sur une couche préliminaire une deuxième surface qui la recouvre et gratter cette surface de façon à faire apparaître la superficie, la superficie qui est en dessous, la surface qui est en dessous, qui va donner de façon à faire émerger une forme ou un dessin qui émerge grâce à la couleur du dessous. Alors, vous le voyez, c'est quelque chose qui a été utilisé sur de très nombreux supports. Ici, je vous ai mis un mur, par exemple, qui sont graffito, où on a donc le dessin Il y a la surface du mur, on a remis une surface par-dessus et on fait apparaître toutes les écritures ou le dessin en grattant donc la surface superficielle. On l'a aussi, par exemple, en poterie, c'est une technique très courante. Hein, j'ai googlisé tout simplement, j'ai cherché sur Google tout simplement cette photo, vous pouvez la retrouver facilement. On a une surface de terre, on la recouvre d'une autre surface et on va gratter cette surface de façon à ce que le dessin apparaisse en dessous par grattage. Vous l'avez aussi dans la peinture, je prends ici un autoportrait de Rembrandt, jeune. Tous les cheveux de Rembrandt sont absolument grattés. Alors il y en a deux versions, hein, je ne vais pas me lancer dans cette histoire de l'art compliquée. Et ce qui est intéressant, alors que dans la peinture ancienne italienne, on voit très peu de grattage, en fait, dans la peinture hollandaise, on voit énormément de grattage. Alors on pourrait en citer beaucoup d'exemples. Erf van der Neer, par exemple, ce paysage qui se trouve au Rijksmuseum, vous ne le voyez pas ici sur la photo, mais il est gratté absolument partout. Il a refait le dessin, particulièrement sur les chevaux qui sont devant ici. Hein, tout le dessin du dos, par exemple, est fait en grattant la surface et c'est la préparation du blanc qui est en dessous. Ou de façon plus étrange encore, sur cette peinture de Karel Fabricius, c'est excessivement connu de nos jours, où en fait la petite bande blanche que vous voyez sur la tache jaune de l'aile de l'oiseau, je vous l'ai montré en détail, est grattée, pas peinte, grattée. On a enlevé, il a enlevé la peinture. Alors, on en trouvera énormément d'autres exemples quand on commence à chercher, parce qu'après avoir découvert le grattage chez Matisse, on s'est mis comme des fous depuis 20 ans à peu près à essayer de repérer tous les grattages qu'on voit dans les peintures. Chez Watteau, par exemple, ici, ou chez Watteau, comme, je ne sais pas si vous êtes du nord ou du sud, une partie en haut à droite du tableau qui est au Louvre est absolument grattée. Vous pouvez en voir un très beau actuellement, j'ai pas mis la photographie, un énorme grattage chez Velázquez dans un portrait de Philippe V. Tout le dos du roi est absolument gratté. Vous pouvez aussi le voir chez Corot, par exemple, ici, toutes les lignes, tout le scribouillis qui est en bas là. Corot a absolument gratté sa peinture, mais vous pouvez le voir aussi chez Gauguin, par exemple. Une toile qui est actuellement exposée chez Beyeler. Où on n'a pas de flèche, je vais faire ici, ou ici, entre les barrières, toute cette zone-là est absolument grattée, et toute cette zone-là est aussi absolument grattée. Le peintre a enlevé la peinture. Alors, ce sont des exemples que je vous montre dans les peintures plus classiques, pour vous montrer que la pratique est infiniment plus courante que l'on ne peut penser. Et je pense qu'elle a été cachée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le fait qu'en peinture, on pense toujours que le peintre ajoute, mais on ne pense jamais que le peintre retire. Ce qui est intéressant quand on commence à penser sur le fait que le peintre retire, c'est qu'on peut penser la peinture en termes corporels, en termes de pratique, c'est-à-dire qu'on est alors enclin à mettre en rapport avec, qu'on est en train de mettre en rapport avec d'autres pratiques. La gravure, la sculpture, les arts appliqués, voire le tatouage, ou encore les pratiques rituelles. On peut penser ceci comme une espèce de pratique rituelle. On est donc tenté, et c'est ce qui m'avait intéressé en tant qu'anthropologue, d'avoir une pensée anthropologique de la peinture, c'est-à-dire d'un faire de la peinture, de la façon dont les peintres agissent pour obtenir l'entoile. Bon, dans cette idée de penser la peinture comme un fer, on n'était pas les seuls, il y a d'autres gens comme Didier Huberman, évidemment, en histoire de l'art, mais l'autre aussi en anthropologie, avec quelqu'un comme Alfred Gell, qui a pensé ce qu'il appelle l'enchantement, c'est-à-dire la façon dont une œuvre séduit les gens à partir d'une production, de la production artistique. Et pour ceux que ça intéresse, je renvoie à ces travaux. Je n'ai pas mis les notes. Alors, quand Florence m'a demandé de parler en fait, elle m'avait inscrit au début dans une série ici qui est de regarder plus précisément un tableau en détail. Et c'est pour ça que j'avais choisi, en lui disant, écoute, je veux bien parler de la matière, j'avais choisi ce tableau, le Vue de Notre-Dame, qui est conservé à New York et qui a été peint donc entre janvier et février 1914. Et qui est une toile assez, une toile de dimension moyenne, puisqu'elle fait 147 cm sur 94 cm. Cette toile, j'ai oublié de vous la remettre ici, mais ça va s'arranger, fait partie de toute une série de tableaux par Matisse. Si on fait l'histoire de l'art de ce tableau, elle est l'ultime version, la plus radicale aussi, d'une série qui se développe en deux sous-séries. L'une qui date de 1897-1907, l'autre de 1914. Alors, elle commence. On peut la commencer par cette série de Notre-Dame de la Tête Galerie, qui est une toile assez étonnante. Elle est peinte en 1900, et on voit qu'il y a un contraste entre les deux parties de la peinture. Le haut de la peinture est plutôt impressionniste, c'est dit rapidement. Le bas est déjà un peu plus fauve. Puis ensuite, une peinture de 1902, très étonnante, qui est conservé à Buffalo, aux États-Unis, où les motifs sont, où le bleu domine, où les contours sont imprécis, comme si Matisse voulait traduire un effet de brume sur la cathédrale. Une version de 1904-1905, où les motifs sont transcrits par des petits points colorés, c'est une version qui est conservée à Stockholm. De la même année, mais probablement un peu postérieure, une version par grandes taches colorées, qui a fait partie de la collection Signac, je ne sais pas où elle est actuellement. Enfin, une version conservée. Oula, la reproduction est très très mauvaise. Une version conservée à Solothurn, qui est la plus descriptive et qui est faite dans une unité de ton. C'est des bleus et des roses, hein, plus franc que ça quand même, et qui est daté du printemps 1914. Et enfin, cette version dont je dois parler aujourd'hui plus précisément, la version du printemps 14, aussi du printemps 14, ou janvier-février 14, ça dépend des auteurs, qui nous intéresse ici, mais c'est une version aussi qui est tout à fait intéressante, qui est tout à fait étonnante, parce qu'elle ne sera montrée en fait publiquement qu'en 1949, et elle fut longtemps tenue pour une esquisse. Le tableau présente une vue très typique de Paris. C'est presque une vue touristique de Paris, avec des références à la cathédrale, au Moyen-Âge, revue et corrigée par Viollet-le-Duc, etc. etc. C'est une peinture très locale, car effectivement, quand Matisse peint ceci, il est à la fenêtre de son atelier. Il regarde dehors. Mais ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que quand on regarde toute la série des tableaux de Matisse, on s'aperçoit que la cathédrale est un espèce de laboratoire. C'est un sujet sur lequel il va multiplier en fait les techniques. Il va faire ses essais de peinture. Hein. Il va pendant 10 ans, pendant même 15 ans, il va à chaque fois qu'il va changer sa peinture, il va faire une version de la cathédrale de Notre-Dame. Et ce qui est tout à fait intéressant, donc il va commencer à travailler différents modes picturaux durant toutes ces années, il va les essayer sur ses peintures, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille dans son atelier, mais qu'il traite d'une vue qui est au dehors. Et là, on est tout à fait dans l'ambiguïté. Il est dans l'atelier, c'est-à-dire le lieu de toutes les expérimentations picturales, le lieu où l'on peint et où on expérimente, et par la fenêtre, face au motif. Or, c'est une position, quand on y réfléchit, assez peu employée par les artistes. Cette espèce d'ambiguïté, comme ça, de l'espace. Alors, celle qui nous intéresse ici, évidemment, on peut se demander qu'est-ce qu'on y voit. En fait, on n'y voit pas grand-chose. On est en face d'une abstraction de la vue de Notre-Dame. Une surface bleue qui s'étend sur toute la surface de la toile, sauf quelques zones où sont aménagées, sur une ligne même horizontale, où sont aménagées trois choses. Une zone de réserve ici, un noir, pardon, une zone de réserve ici, où sont les grattages, un vert et à nouveau un noir. Donc, très peu de choses visuellement à voir. Mais aussi, outre dans cette zone-là, où il y a une densité très importante de... une grande densité des événements, le reste de la peinture est traversé de grandes lignes horizontales ou verticales qui viennent constituer en fait le champ du paysage. Alors, mais elles viennent constituer le champ du paysage tout en étant des restes figuratifs. Car là, on voit bien aussi que Matisse, dans toute cette partie ici, a enlevé de la peinture. Alors, je ne vous ai pas mis tous les documents, mais on a fait des radiographies depuis, et on s'est aperçu effectivement qu'il y a en dessous, dans les sous-couches, d'autres restes de la peinture que Matisse est venu, qu'il a retravaillé dessus, et qu'à nouveau, il les a enlevés. Donc, on voit la mise en place de deux pratiques qui sont tout à fait intéressants. L'effacement dans les bleus, ici, il a effacé, par exemple, ici. Hein. Et d'autre part, le grattage dans les noirs. Et tous ces noirs-là sont grattés. Or, ils ne sont pas grattés n'importe où, puisqu'ils sont grattés autour d'une zone que l'on peut voir comme un redoublement de la cathédrale. C'est-à-dire qu'il y avait une première cathédrale, première forme cathédrale, et puis qu'il a peint une deuxième forme cathédrale, à l'intérieur de cette forme cathédrale, et qu'il a effacé par grattage une partie de la première forme cathédrale qu'il a fait. Il l'a diminuée. Les zones noires autour de la cathédrale qui sont ici sont aussi des effets très curieux. Elles peuvent passer, et comme la zone noire qui est à côté de la tache verte ici, elles peuvent passer pour des ombres. Ce qui est intéressant, c'est que le noir ici est à la fois un reste, probablement de quelque chose que Matisse avait fait, une première version et une inversion. Car elle donne à la peinture cette espèce d'ambiguïté tout à fait étrange et qui la rend fascinante, qu'on est en face d'une peinture à la fois de jour et d'une peinture de nuit, d'un effet de jour et d'un effet de nuit. Quelles que soient les interprétations, que l'on soit du côté du diurne ou du nocturne, que l'on soit en face d'une vision diurne ou d'une vision nocturne, ce noir produit des effets de lumière. Et je vous rappelle que Matisse, par exemple, dans Les Marocains, disait que le noir est une couleur. Matisse voyait une couleur de lumière, dans le noir, une couleur de lumière et non une couleur d'obscurité. Alors, il y a donc deux matrices qui organisent le tableau. Un reste figuratif qui devrait indiquer les grandes lignes de la composition, comme une sorte de schéma et de plan, ce sont les lignes noires. Des effets de matière colorée, d'autre part, qui sont l'intensité des réserves, des noirs et l'application du bleu, dispersent les éléments picturaux au-delà ou en deçà de la figuration. Le sujet, si l'on pense que c'est la cathédrale Notre-Dame, est projeté en haut de la toile. Il est un reste de quelque chose que Matisse a vu, la cathédrale. et il l'a presque effacée. De même, le reste du lieu autour et le paysage urbain est vidé de ces signes au profit d'intensités colorées et lumineuses. Donc il y a une espèce d'énorme pratique et une très étrange pratique de la part de Matisse à non pas construire sa toile en ajoutant des choses, mais en enlevant et en ne présentant que le reste de la peinture. Alors, maintenant, venons-en, si vous voulez, un peu à cette zone de plus particulièrement grattée qui est autour de la cathédrale, à la fois dans les noirs, ici, dans le haut de la première tour ici, et dans le haut de la deuxième tour ici. De façon tout à fait intéressante, je vous ai dit tout à l'heure que peut-être pour comprendre cette pratique, il fallait renvoyer à d'autres techniques, d'autres techniques qui étaient utilisées par les artistes. Une des techniques que Matisse va utiliser, indiscutablement, c'est le monotype. Vous savez comment est fait un monotype? On enduit une plaque d'encre d'imprimerie et l'on dessine quelque chose sur cette plaque en enlevant effectivement cette encre. Puis ensuite on applique un papier dessus, on passe un rouleau et on obtient donc un positif qui est la gravure que je vous montre ici, une vue de Notre-Dame, aussi de printemps 1914, qui vient d'être fait donc en même temps et qui est le résultat donc de cette action d'enlever de la peinture sur la surface de la plaque, et où vous voyez où les motifs apparaissent par un trait blanc qui est donné par la réserve et par le grattage sur la plaque sur une grande surface noire. Alors sur les monotypes, j'étais en retard, donc j'ai pas dégagé beaucoup plus commenter beaucoup plus sur les monotypes, mais vous savez que la pratique a été inventée en gros par Degas, ou en tout cas très multipliée par Degas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde Degas et quand on regarde, un des monotypes de Degas ici, où Degas ne fait pas ça proprement, c'est ça qui est intéressant, hein. Degas il prend son doigt et puis il griffouille, il fait des effets d'ombre, etc., etc. Matisse, c'est très propre, hein. C'est très travaillé, c'est très dessiné, c'est très élaboré dans sa page. Et alors, ce qui est l'autre chose aussi qui est tout à fait intéressant, c'est que Matisse, là, contrairement à ce qu'on voit sur l'autre tableau, Matisse met la cathédrale au milieu de son. C'est le vrai sujet. On peut se demander dans le tableau qu'il a fait si la cathédrale est encore le vrai sujet, puisqu'elle est reportée complètement en haut à gauche du tableau. Mais ce qui est indiscutablement, et ce que Matisse aussi apprend par les monotypes, et vous savez qu'il est très connu pour ça, c'est la réduction à quelques signes et à quelques traits du paysage et du monotype. Le monotype, indiscutablement, chez Matisse, lui permet de radicaliser la simplification des formes. Donc dans le tableau, dans la peinture, Matisse projette cette cathédrale, je vous en ai fait une vision plus rapprochée, projette cette cathédrale en haut et à droite, en haut et à gauche de la peinture, mais en fait il fait aussi, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, une seconde cathédrale. Il y a une cathédrale dans la cathédrale. Alors, le grattage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est réservé à une zone bien spécifique. Il spécifie l'écran entre les deux modèles, la grande et la petite. Il est donc réservé et limité à un espace interstitiel où les contours de la cathédrale viennent alternativement avancer et reculer, comme on voit grossir et rapetisser la distance qui la sépare de nous. Cet espace concentre donc un maximum de grattage. Il est tout rayé, il laisse apparaître de la lumière sur le noir, le blanc, lumière qui viendrait des interstices grattés dans la peinture, au plus près de la toile blanche. Cette pratique du grattage dans le noir, qui fait apparaître la surface comme vitrifiée, fait penser à une autre technique qui produit une révélation du dessin par la lumière. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Le cliché vert. Et indiscutablement, Matisse a dû regarder ceci. Comme les monotypes, en fait, le cliché vert est une technique qui a été mise en point vers les années 1850. Et elle consiste à recouvrir d'un vernis et de pratiquer une plaque de verre d'un vernis et de pratiquer un dessin. Cette plaque de verre déposée sur un papier photosensible est exposée à la lumière, puis ensuite développée. On inscrit donc le dessin en positif ou en négatif. Du temps de Corot aussi, on pouvait obtenir des différentes subtilités au tirage, surtout entre les gris relevés par les sels d'argent et obtenus par la modulation d'épaisseur du vernis qui recouvrait la surface de la plaque de verre. Alors, je vous en ai mis deux clichés verts de Corot. Les gens de Barbizon ont beaucoup utilisé cette technique. Et indiscutablement, Matisse donc la connaissait probablement et s'en est inspiré. À ma connaissance, je ne pense pas que Matisse ait fait des clichés verts. Mais par rapport au cliché vert, il y a ici, dans le tableau de Matisse, un effet supplémentaire qui affecte la lecture du tableau. La surface grisée entre les deux cathédrales, la petite et la grande, révèle un espace dans le tableau qui n'est ni un premier plan, ni un arrière-plan, mais une zone insituable, sinon dans l'épaisseur de la peinture. Un espace qui est complètement inédit. Et c'est là où ça devient fascinant. La zone grattée permet de transformer complètement la lecture du tableau. J'enlève, et en enlevant, je soulève la question de ce qu'est un espace entre. Ici, ce n'est pas un espace entre deux traits qui décrit deux signes, les deux signes cathédrales, mais c'est un espace entre deux contours. La zone grattée décrit une différence spatiale, mais également une différence dans l'épaisseur entre la surface et le plan, cette épaisseur absolument inqualifiable en termes géométriques qui existe entre la toile et la peinture. Quand vous pensez à ce que c'est qu'un grattage, c'est une surface, une sous-surface qui vient à la surface de la toile. Elle joue à la surface tout en étant sous la surface. Hein ? Et c'est là indiscutablement que Matisse montre quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il qualifie en fait la peinture. Il en fait presque une peinture pour non-voyants, car elle montre ce qu'il veut faire par sa texture particulière, quelque chose qui serait presque aussi découvrable par le toucher. Et ainsi, Matisse obtient un effet tout à fait curieux, que nous avons appelé l'effet vitrail, c'est-à-dire ce lieu par lequel la lumière entre dans un bâtiment, le plus souvent une église, se diffracte et colore le bâtiment. Cette référence à l'effet vitrail nous permet au fond de comprendre aussi, de comprendre le monochrome bleu, car ce bleu rend la fenêtre sensible. Je vous ai dit tout à l'heure que Matisse peignait en fait un motif à partir de son atelier. Il le voit à travers la cathédrale, le motif, il le voit à travers la fenêtre de son atelier. Il désigne la fenêtre comme une surface de la toile, c'est-à-dire qu'il vient projeter le motif sur la fenêtre, comme le lieu par lequel passe le motif. On peut le dire aussi autrement, la fenêtre devient le lieu où le motif. c'est-à-dire la vue de Notre-Dame, le lieu où elle se réalise. La vue. Okay. Ceci est déjà noté par Jan Siegel dans un article de 1980 où elle fait une très très belle étude sur toutes les variations autour de des cathédrales de Matisse, où elle dit, je la cite, « Finalement, la cathédrale fenêtre fait écho à la fenêtre à travers laquelle le spectateur voit, ainsi qu'à la forme extérieure du tableau lui-même. C'est une peinture qui porte l'idée de la fenêtre dans la fenêtre, un écran plus loin. » Cette question du vitrage, de la vitre comme surface de projection de la lumière, de colorisation de l'espace, reviendra donc quelques années plus tard, même plusieurs dizaines d'années plus tard, dans les vitraux de Vence. Et vous voyez, effectivement, sur cette photo, peut-être vous pouvez sentir ce que probablement Matisse déjà avait ou voulait faire dans la toile de 1914, c'est-à-dire colorer l'espace à travers la peinture. Vous voyez qu'ici, dans la chapelle de Vence, les vitraux donnent de la lumière couleur à l'intérieur de l'architecture et ainsi la déréalise, ou en tout cas donne un effet de sacralisation. Donc, et pour traduire cet interstice ces interstices qui est aussi lumière, Matisse a recours à des techniques qui n'appartiennent pas à la peinture à l'huile, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou au tableau. Il transfère dans la matérialité de la peinture la technique des monotypes, de la gravure, des clichés verts, mais aussi de la grisaille des vitraux, par exemple, qu'il a pu voir ici, ou encore de la scarification sur la peau, si l'on doit faire référence aux sociétés exotiques. Et si je fais cette réflexion sur la scarification de la peau, ce n'est pas par hasard. Car un des autres tableaux très très grattés de Matisse est celui-ci. C'est le portrait de von Landsberg, peint justement en juin-juillet 1914, et conservé à Philadelphie, qui faisait partie de la collection à Arensberg. Vous voyez que autour du portrait, tout est gratté sur cette surface du tableau. C'est incroyable. Toutes les lignes sont des grattages, tout est érodé, etc., etc. Et Matisse a justifié ce grattage et ses effets de lignes autour du personnage comme d'une leçon à Ivan Landsberg. Parce que c'est une jeune fille, disait-il, très timide, et il voulait montrer dans sa peinture que il voulait montrer, donner une leçon à Ivan Landsberg en lui disant, en fait, il faut que vous sortiez de votre personnalité, hein, il faut que vous ouvriez au monde un peu, je crois qu'il utilise le terme quelque part dans un de ses textes, un peu comme un bouton de fleur, et toutes ces grandes échappées, ces grands traits circulaires autour du personnage sont faits comme un bouton de fleur qui devrait, ou il signale donc à la jeune fille qu'elle devrait souvenir au monde. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, au fond, le grattage est également la matérialisation d'une aura. Il fait une aura autour d'Ivan Landsberg. Un peu dans ce portrait, le grattage constitue l'aura, comme dans la photographie de la fin du XIXe siècle, où des filaments, des halos, matérialisent l'électricité du corps. Dans Notre-Dame de 1914, cet espace interstitiel dont j'ai parlé tout à l'heure, gratté, ne forme pas, comme il le fait chez Ivan Landsberg, des sortes d'ondes vibrantes autour du corps du modèle. C'est un paysage et pas une personne. Par contre, nous avons vu que c'était le lieu situé entre les deux cathédrales où la lumière de la toile perce et grise la surface du tableau. On peut dire ainsi que la vue de Notre-Dame permet peut-être de repenser la question de l'aura.
On pourrait le faire, cette aura, repenser cette question de l'aura. Vous savez qu'elle a été définie par Walter Benjamin dans un texte célèbre, L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. J'ai toujours du mal avec ce mot, qui a été donc publié en 1931. Et l'aura, Walter Benjamin voyait l'aura dans les icônes. C'est-à-dire ces choses où il disait dans les icônes, il y a une vibration qui est absolument unique à l'œuvre, qui était propre à une communication mystique. Et on peut se demander si on ne peut pas aussi repenser ce terme de l'aura sur la cathédrale. Alors, on pourrait évidemment repenser cette idée d'aura, quelque chose de vibratoire, de la cathédrale de Matisse, puisque la cathédrale est un sanctuaire et un lieu du sacré. Mais pourtant, ce n'est pas tout à fait notre hypothèse. Notre hypothèse, c'est que Matisse a transféré cette pensée oratique non sur la cathédrale, mais sur la création même. Ce qui engage de repenser l'aura à l'aune du grattage. L'emplacement vibrant de la peinture se situe là où le grattage a lieu, en haut, à gauche, la place du cœur. Ainsi, cette présence qui définit aussi le caractère d'unicité de l'aura, elle est là, et c'est comme ça que Walter Benjamin l'a désignée, c'est celle qui est opérée par le geste, par un processus de production, par retrait de la peinture. On peut donc aussi avancer l'hypothèse que c'est la présentification du geste, de la création de la peinture, que le grattage opère. C'est-à-dire que le geste unique du grattage présentifie l'aura de l'œuvre. Et d'une façon tout à fait extraordinaire, par l'ajout d'un retrait. C'est tout à fait paradoxal. C'est donc un geste qui annule la fin de la peinture. Ce geste met en œuvre la performance de la fabrication. On voit l'artiste au travail, et un travail d'effacement, presque de destruction. Et c'est ce travail de destruction qui rend présente l'œuvre. Autre paradoxe. La modernité de la vue de Notre-Dame n'est pas la modernité optique de la couleur, mais une modernité du geste, de la performance, sans arrêt renouvelée dans la vision entêtée du grattage. Le geste du peintre est ici donné à voir, il devient le sujet de la peinture, ou en tout cas son objet, puisqu'il donne à voir la peinture comme pratique, où la peinture se fabrique grâce à sa suppression partielle, sans jamais retourner au point d'origine. La surface de la toile originelle est vide. C'est une pratique transformative, une pratique rituelle, incisée et infiltrée dans le corps de la peinture et dans celui du tableau. Je vous remercie.